France Inter.
Vous goûtez comme ça?
Oui, bien sûr.
Oui, c'est bon.
Qu'est-ce que tu aimerais manger?
Des frites.
La crème anglaise.
Et les frites aussi.
Développer le palais des enfants.
J'aime pas le brocoli.
Celle qui a des trucs bons, je mange tout dans mon assiette. Celle qui a des trucs pas bons, je ne mange pas toute mon assiette.
C'est un gaspillage alimentaire conséquent.
68% des enfants qu'on a interrogés nous ont dit que ça leur arrivait parfois de manger que du pain le midi.
Après 17 ans dans de grandes cuisines centrales, François a été embauché pour reprendre une cuisine sur place. Ici, tout est fait maison et rien ou presque ne part à la poubelle.
Tu vas finir ou pas?
Ouais.
Un choix politique qui pourrait être sur la table lors des municipales.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Qu'est-ce qu'il y a à la cantine aujourd'hui? C'est la fameuse question que se posent presque tous les jours de la semaine 7,4 millions d'élèves dans 35 000 établissements scolaires en France. À quelques semaines des élections municipales, on pose ce sujet brûlant des cantines scolaires sur la table. Pourquoi 26% seulement des enfants finissent leur assiette à la cantine? Pourquoi 50% des parents se disent insatisfaits? Y a-t-il une prise de conscience de la part de nos élus? On va voir que les belles initiatives aussi fleurissent, heureusement, un peu partout en France, avec nos invités. Marie-Pierre Membrive, bonjour.
Bonjour François-Régis.
Mission cantine scolaire, quand une maman professionnelle de l'alimentation s'engage, c'est le plaidoyer que vous avez signé au printemps dernier aux éditions Michelon et qui fait beaucoup de bruit dans le milieu de la restauration collective et vous interpellez. On va le voir, les candidats et les candidates aux élections municipales, vous avez beaucoup de choses à nous raconter. Pierre-Yves Rommelard, bonjour.
Bonjour François-Régis.
Merci d'être avec nous. Vous nous venez très spécialement du département de l'Aude. Vous êtes chef de la cantine du collège Joseph Anglade, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Vous nous citez le nom du village de l'Aude dans lequel vous êtes?
J'habite à Saint-Pierre-des-Champs, dans les Corbières.
Et le collège est à Lézignan-Corbières, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Vous préparez chaque jour, on va le voir, avec vos équipes, des repas 100% maison, avec beaucoup de produits bio et locaux. Vous allez même nous faire goûter des plats. On va vraiment jouer aux collégiens aujourd'hui, vraiment dans les conditions, avec les mêmes produits, les mêmes proportions. Alors, pas les mêmes assiettes, parce que les nôtres sont en carton. Mais en tout cas, on va se régaler, ou pas? Si, je pense qu'on va se régaler, évidemment. Comment faire de la cantine un lieu d'éducation au goût et un lieu d'équilibre alimentaire? On en parle avec notre nutritionniste maison, Anthony Berthoud, bonjour.
Bonjour à tous.
Ravi de vous retrouver, Anthony. Également. Avec nous également notre chroniqueuse, reportrice Zazie Tavitsian. Bonjour Zazie.
Bonjour.
Alors,
moi je suis retournée en primaire pour m'attabler à la cantine, pour mon plus grand bonheur.
Bon, et ben résultat des jeux, petit bilan de votre expérience normande, on peut le dire.
Ouais, normande, délicieux déjà, je préviens.
Ah non, très bien, dans le courant de cette émission. Et notre mangeur masqué, critique gastronomique et écrivain, François Simon, est également avec nous. Bonjour François.
Bonjour à tous.
Au menu de votre...
Alors là, on va réaliser qu'à nouveau, la nourriture reste un rapport existentiel.
Oui, très même intéressant. Dans les cantines. Et je crois même que François Simon retombe avec délices, plus ou moins de délices d'ailleurs,
en définitivement.
Voilà. Pour réagir, intervenez sur ce sujet brûlant. Envoyez-nous un email à onvadéguster@radiofrance.com et abonnez-vous au podcast On va déguster sur l'appli de Radio France. Retrouvez tous nos contenus, recettes, adresses, infos pratiques sur radiofrance.fr à la page On va déguster.
France Inter, François-Régis Gaudry, On va déguster.
L'heure de la cantine a sonné. Allez, installez-vous les enfants. Bon, Simon et Berthoud, là, vous arrêtez de chahuter cette fois-ci. Je vous ai à l'œil, hein, tous les deux. Et oui, notre studio 611 se transforme en réfectoire. Votre déjeuner est servi, les enfants. Bon appétit. Vous avez sous vos micros une assiette. On n'en dit pas plus. Vous n'en savez rien. Est-ce que Zazie, vous pourriez me la décrire?
Ouais, bah c'est une petite tartine très belle, très colorée. Déjà, elle donne hyper envie comme ça. Et dessus, il y a différents légumes, carottes qui ont l'air un peu marinées, des radis, brocolis. Et il y a une petite crème aussi jaune sur la base. Je ne sais pas encore ce que c'est, je n'ai pas encore goûté.
Justement, il va falloir trouver l'identité de cette petite crème jaune. Il y a aussi quelques feuilles de mâche, me semble-t-il. Oui. Effectivement, de belles carottes. J'ai l'impression qu'il y a un petit pickles d'oignon. Alors, qui veut commenter? Marie-Pierre?
Oui, c'est une tartine toute colorée, la preuve qu'avec du végétal et même en hiver, on arrive à faire des plats chatoyants et j'ai hâte de croquer dedans.
François, vous avez déjà croqué dedans?
J'aime bien ce genre de nourriture, don't touch me. C'est-à-dire, elles sont si jolies qu'on n'ose même pas y toucher.
C'est vrai que c'est coloré, hein. On se dit, on est en hiver. Alors même si on s'approche du printemps et qu'il y a un redoux quand même qui nous fournisse des légumes un peu moins hivernaux, c'est vrai qu'il y a de la carotte, du brocoli, je distingue une espèce de radis qui pourrait être du radis red meat.
Oui.
Avec ces petites arabesques fuchsia comme ça, il y a du radis noir aussi. Est-ce que vous sauriez me dire ce qu'est cette pâte à tartiner sur cette tartine?
Est-ce que c'est
Anthony une...
Alors je ne suis pas critique en soi, hein, mais est-ce qu'on se lance dans l'avocat?
Non,
perdu.
Mais c'est intéressant, parce qu'il y a effectivement cette texture onctueuse.
Et puis la couleur trompe aussi.
C'est vrai. Alors là, on a plus affaire à une espèce de couleur un peu jaune paille.
Ça serait un peu comme un petit houmous, mais il y a un côté citronné aussi dedans.
Un petit houmous. Eh ben, c'est Zazie qui chauffe. Hein. Résultat des jeux, Pierre-Yves Romelard, parce que c'est Pierre-Yves qui nous a composé cette recette, vraiment dans les conditions de votre collège des Corbières.
Oui, tout à fait, ouais, complètement. Crème de haricots blancs, quelques agrumes, un petit peu d'épices, un peu de persil. Et ça s'apparente au houmous. Une petite tartine qu'on sert au collège tous les jours.
Oui.
Pardon. Et bon, là, effectivement, il y a plusieurs. Je l'ai bien dressé pour vous. À la cantine, des fois, on a un peu moins le temps. Il y a peut-être un peu moins de légumes, etc. Mais l'idée, elle est là, en tout cas, c'est de proposer quelques petits légumes, des crudités, des crudités. Une crème de haricots. Et sur là, je vous ai vu, vous allez aussi manger avec les mains. Et c'était l'idée de départ, c'était de proposer quelque chose aux enfants, dans l'idée des pizzas, de tout ce qu'ils aiment manger avec les mains, de leur servir une tartine à manger avec les mains. Et voilà, une petite crème, et donc un rapport qualité-prix super abordable, un visuel quand même assez sympa.
Mais ouais.
Et les enfants, ils se sont appropriés ça. Bon, des fois, c'est vrai que le brocoli, tout ça, c'est un peu compliqué. Ça dépend des couleurs, des légumes et tout. Donc, il y en a des petites astuces et tout ça. Mais dans l'idée, la tartine, comme ça, on peut la... C'est une recette ou un mode opératoire qu'on pourrait multiplier. Donc la tartine, elle pourrait être remplacée par une galette de riz. Les enfants adorent ça, même si nutritionnellement, c'est peut-être un peu différent. Là, on est sur un pain aux céréales. Mais ça pourrait être une galette de wrap, ça pourrait être d'autres choses. Après, on a la crème de haricots, mais ça pourrait être un houmous. L'idée, c'est d'utiliser une légumineuse et d'en faire une crème. La légumineuse qu'on peut assaisonner avec tout ce qu'on veut, c'est ça qui est bien avec les légumineuses. J'adore jouer avec les agrumes, les épices, les herbes, etc. Donc, peu importe le haricot blanc. Là, le haricot blanc, c'est parce que c'est chez nous et que c'est tout à fait de la région. Ça peut être du pois chiche, ça peut être une lentille. Vraiment. Et puis les crudités, en fonction des saisons aussi. On est en été, on est au printemps, on est en hiver. On s'approprie les légumes qu'on trouve sur le moment. Et on joue avec les tailles, avec le... Voilà, on met mariner un petit peu tout ça, on dresse tout ça. Et pour les enfants, ça marche très bien.
Le regard de notre nutritionniste Anthony Berthoud sur cette tartine?
Alors déjà, le regard, c'est très beau. Vraiment, visuellement, c'est très très agréable. Et effectivement, nutritionnellement, il n'y a rien à redire. Au sens où, déjà au niveau des légumineuses, pour là, le haricot blanc, on le sent très doux. Et ça, je pense que c'est un argument très intéressant pour les enfants. Et on le sait aujourd'hui, en fait, la diversité des couleurs, la diversité des légumes est un critère au moins tout aussi important que la quantité. Et là, on a une multitude, en fait, entre la carotte, le brocoli, les haricots, le pain, etc., d'aliments qui font que, effectivement, c'est, pour les enfants, c'est parfait.
Vous nous confirmez que céréales plus légumes secs égale protéines complètes?
Exactement, exactement. Et là, en plus, on pourrait s'orienter vers un modèle plus végétal en termes de menu. Mais là, en tout cas, pour une entrée, ça correspond complètement au standard nutritionnel. Ouais.
Pierre-Yves Romelard, est-ce que vous avez utilisé les mêmes produits que ceux que vous utilisez dans la cuisine de votre collège pour réaliser ces tartines?
Ils viennent tous de la cuisine, à part le pain que je suis allé chercher ce matin chez un boulanger, mais on a un boulanger aussi chez nous, autour des moulins.
Vous êtes autour de... Vous utilisez du pain bio d'ailleurs, hein,
c'est
le dire.
Du pain bio, il y a une grande partie, une fois par semaine, on a un super pain qui vient d'un boulanger qui travaille une farine locale, d'un meunier juste à côté, donc ils ont droit, une fois par semaine, à un pain un peu différent. C'est le pain qu'on utilise pour les tartines aussi. Et dans l'ensemble, là, tout ce que vous avez en tout cas dans la petite assiette, c'est tout à fait ce qu'on retrouve au collège.
Alors ça peut être dans toutes les familles de produits, vous avez réussi comme ça à tisser des liens avec des producteurs locaux, pour les légumes, pour les agrumes.
Au fur et à mesure du temps, bien sûr, je suis allé à la rencontre des producteurs, c'est ce qui est aussi super dans ce métier. Enfin, j'ai le plaisir de pouvoir faire mes menus et de faire mon approvisionnement. Et donc, c'est assez génial pour moi d'aller rencontrer les producteurs. J'ai l'impression d'être un chef de grand restaurant et de pouvoir rencontrer tous ces gens-là. J'apprends tous les jours à aller, ramasser les asperges, voir les différentes qualités ou cépages de raisin de table qui existent, enfin, toutes ces choses-là. Et pour moi, je trouve que c'est absolument génial. Et donc, le travail avec les producteurs est super intéressant. Et du coup, il permet aussi de travailler des produits d'excellente qualité. Etienne et Perrine, depuis quelques mois, les agrumes des Pyrénées-Orientales qu'on utilise maintenant. Enfin, voilà, c'est super.
Pierre-Yves Romelin, vous êtes depuis 10 ans chef de cette cantine du collège Joseph Anglade dans l'Aude à Lézignan-Corbières. C'est combien d'élèves par jour avec quelle équipe pour faire ces repas?
On a 500 enfants tous les midis et on est 4 en cuisine pour préparer le repas de tous les jours.
Et on disait seulement 26% des élèves finissent leur assiette. Est-ce que dans votre collège, ils vont jusqu'à la dernière miette ou pas?
Ils vont un peu plus. La dernière miette, ça serait mentir, mais non, ça va un peu plus que ça. Et je vais regarder mes poubelles de temps en temps. Dans l'ensemble, je suis assez satisfait. Après, je ne vous cache pas et je sais très bien que certaines propositions, le lundi, on fait un gratin de coquillettes au comté et au jambon, on prend un très bon comté bio, jambon.
C'est la kiffance.
Là, c'est comme ils disent, là, c'est la vie, c'est génial. Par contre, le jeudi, quand on sert un filet de truite avec une petite sauce vierge, là, par contre, effectivement, c'est peut-être plus compliqué pour certains. Mais l'idée, c'est d'avoir un petit peu ces propositions qui évoluent tout au long de la semaine et qu'on soit sur des menus plaisir et puis de temps en temps sur des menus découvertes. Et puis moi aussi, ça me permet aussi d'inventer plein de choses et tout ça. Encore maintenant, aujourd'hui, je continue à changer mes menus, à inventer encore plein de recettes.
On a la preuve dans notre studio et c'est beau à voir que ça bouge. On va le voir avec vous aussi, Marie-Pierre Membrive, évidemment. On va dénoncer certaines réalités. Mais clairement, aux quatre coins de la France, les lignes bougent, notamment grâce à des énergies comme les vôtres. Et encore une fois, ça fait plaisir à voir et à entendre. On va continuer évidemment à évoquer le sujet. C'est Laurent Thomas qui mitonne cette émission en direct avec Adèle Caglar à la console, Fabrice Rivaud pour la prépa et l'orga de l'émission. Quand une maman devient une experte des cantines scolaires et une militante du bon goût à l'école. On en parle juste après un titre qui va vous mettre la pêche, François Simon. David Walters, choisi par Djoubaka. Alors, faut le prononcer bien parce que c'est du créole. Vini Jouen Mouen, ça veut dire « venez me rejoindre ». À la cantine et sur France Inter, évidemment.
See you.
Elle s'invite en ce moment dans le débat politique, cette question de l'alimentation de nos enfants, et particulièrement à la cantine. Marie-Pierre Mambry, vous êtes ingénieure en agroalimentaire, vous vous êtes engagée pour une alimentation saine, savoureuse et durable dans les écoles. Vous êtes identifiée aujourd'hui comme la maman qui essaye de faire bouger les lignes dans les cantines scolaires. Pour certains acteurs de la restauration collective, comme vous le racontez dans votre livre, vous êtes plutôt aussi la bête noire. Et bien c'est le sujet, les cantines scolaires, de votre livre « Mission cantine scolaire ». Quand une maman professionnelle de l'alimentation s'engage, c'est aux éditions Michalon, c'est un plaidoyer concret pour transformer les cantines scolaires. Sa lecture est passionnante, je vous la recommande chaleureusement. Marie-Pierre Mambrive, vous étiez dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale lundi soir, il y a une petite semaine. Que s'est-il passé ?
Eh bien, la semaine dernière, la députée Olivia Grégoire présentait sa proposition de loi en faveur d'une expérimentation de l'éducation à l'alimentation dans les programmes scolaires. Et cette proposition de loi a été votée à l'unanimité à l'Assemblée. Donc, un grand pas pour que tous les enfants puissent être sensibilisés au bien manger à l'école et pas seulement quelques-uns du fait des actions des associations de terrain comme l'Association de l'alimentation durable dont je fais partie, mais il y en a tout plein d'autres aux quatre coins de la France. Et puis, parfois, c'est la volonté d'un enseignant par-ci, par-là. Mais c'est pas facile. Et Olivia Grégoire et nous aussi, on aimerait beaucoup que ça se génère.
Preuve que toutes les forces politiques peuvent s'entendre sur un terrain, celui de l'éducation au goût pour nos enfants.
Ah ben, s'il y a bien un sujet qui peut rassembler, c'est de se fédérer pour sensibiliser dès le plus jeune âge au bien manger, parce que, rappelons-le, la première médecine, c'est l'alimentation. C'est pas moi qui le dis, c'est Hippocrate qui l'a écrit. Et on sait que les bonnes habitudes s'acquièrent dès le plus jeune âge. Et ensuite, il faut donner l'accès aux produits de qualité au plus grand nombre. Et ça, c'est un autre sujet qui vient en complément.
Anthony Berthoud, spécialiste des questions nutritionnelles, est-ce que vous considérez que cette proposition de loi peut enfin faire un peu avancer les choses ?
Alors, dans la théorie, en tout cas, oui, il faut voir derrière comment c'est mis en pratique, mais en tout cas, ça montre la volonté. Et c'est vrai qu'il y a deux aspects, l'aspect de l'éducation au goût et l'aspect de l'éducation nutritionnelle. Et là, il y a quand même un chantier de fond qui est très important, donc je pense qu'il faut démultiplier les actions et faire en sorte qu'effectivement, on mette dans l'assiette de nos enfants des aliments de qualité, mais qu'on les rende aussi de plus en plus autonomes par rapport à leurs propres choix. Et ça, je pense que sur du long terme, c'est quand même le sujet de fond.
C'est l'objet de cette proposition de loi, c'est vraiment de couvrir du champ à l'assiette ce sujet de l'alimentation afin que les enfants puissent s'approprier ce sujet et faire des choix éclairés en conscience.
Mais on considère aussi par cette proposition de loi que c'est l'école qui a prioritairement un rôle à jouer en la matière.
Alors, c'est un sujet qui fait débat parce qu'on y oppose souvent que ça doit se passer à la maison. Moi, j'ai la conviction que l'école et la maison doivent se faire écho. Et tous les enfants ne sont pas égaux par rapport aux questions de sensibilisation à l'alimentation dans leur famille. Et donc, l'école a ce pouvoir de démocratiser les savoirs autour de l'alimentation pour que tous les enfants aient la chance de pouvoir faire des choix éclairés et en conscience une fois qu'ils auront grandi ou même dès le plus jeune âge.
Anthony Berthoud, est-ce que l'école peut tout ? Ou est-ce qu'elle est là aussi pour pallier peut-être certaines défaillances dans l'éducation à l'alimentation au sein du foyer, au sein de la cellule familiale ?
On en revient à effectivement l'éducation nutritionnelle de fond, que ce soit pour les enfants ou pour les parents, pour la cellule familiale de manière générale. Donc pour moi, les deux sont absolument complémentaires. Il n'y en a pas une qui doit être unique. Et j'ai regardé un petit peu la littérature scientifique sur le sujet. On a eu beaucoup d'études. On a notamment une étude de 2022 qui compile en fait les résultats de 15 études qui montrent qu'effectivement l'élément le plus robuste qui ressort, c'est que l'éducation nutritionnelle des enfants a un impact positif sur la connaissance nutritionnelle et l'application nutritionnelle des parents. C'est-à-dire qu'on inverse un petit peu le rôle, à savoir que finalement, c'est l'enfant qui amène la connaissance nutritionnelle au sein de la famille et ça améliore finalement les réflexes nutritionnels. Donc, On a un grand terrain d'action, ça c'est certain, mais ça n'enlève en rien le besoin pour les parents, effectivement, d'avoir une éducation nutritionnelle à transmettre à leurs enfants.
Pierre-Yves Romelard, vous qui êtes au contact de centaines de collégiens quotidiennement dans votre collège Joseph Anglade, on le dit, dans les Corbières, est-ce que vous décelez une différence d'éducation entre les enfants, oui, dans la connaissance de oui, certains produits, oui, ne serait-ce que le fait de citer, d'être en capacité, lorsqu'on a sous les yeux différents légumes, oui, de distinguer peut-être un radis noir, du céleri rave
Complètement. On voit qu'il y a vraiment des différences. Il y a certains élèves qui ont peur, vraiment, en passant devant la ligne du self. Il faut les rassurer, il faut leur expliquer ce que c'est. Des fois, on utilise comment on s'approprie les recettes et comment on les affiche, comment on les amène et tout ça. Qu'est-ce que c'est qu'un bavarois en dessert? Qu'est-ce que c'est que des tagliatelles de carottes, ces choses-là? Enfin, je vois qu'il y a des enfants qui sont parfois un peu décontenancés devant mes propositions et d'autres qui sont très à l'aise et qui viennent même me faire des propositions en disant « j'ai goûté ce légume » ou « j'ai une idée à proposer, est-ce qu'on pourrait pas faire du blé comme je fais à la maison ?» Ça serait génial de le montrer aux enfants et de le montrer à tout le monde. Donc je vois vraiment qu'il y a des différences, en tout cas en fonction des enfants. Et ils s'approprient, il y a certains qui s'approprient vraiment le repas, ce qu'ils mangent, etc., qui ont envie de participer, et d'autres pour qui c'est très compliqué. Et qui passent des fois avec une assiette de riz, du pain, alors que les vitrines sont pleines, qu'il y a des propositions et tout ça, et pour eux c'est très compliqué.
Il y a des élèves plus disponibles et plus à l'abri, entre guillemets, de ce que l'on appelle la néophobie, le fait d'avoir peur de la nouveauté dans l'assiette. Ça c'est pas un truc naturel, c'est un fait culturel, c'est le résultat de l'éducation en famille, Anthony Berthoud ?
Oui, et puis alors j'ai en tête une étude, alors c'est pas une étude, mais c'est une enquête qui avait été menée auprès d'un peu plus de 900 enfants qui montrait en 2013, donc ça date de quelques années, que 87% des enfants entre 8 et 12 ans ne réussissaient pas à reconnaître ne serait-ce qu'une betterave. Et quand on leur servait du jambon, des nuggets, etc., 40% ne savaient pas, en fait, d'où venaient ces aliments-là. Donc, effectivement, la sensibilisation de l'origine de l'aliment, que ce soit un fruit, un légume, peu importe, au final, elle est essentielle parce que ça leur permet, effectivement, d'être moins, en découverte, finalement, et comprendre que c'est des aliments qui sont bons pour leur santé aussi.
Marie-Pierre Mambry, vous avez lancé une autre initiative importante, c'est le Manifeste pour le bien manger à l'école. Précisons que c'est une initiative citoyenne et apolitique qui vise à mettre le sujet du bien manger à l'école au cœur de la campagne municipale dans laquelle nous sommes en ce moment. Racontez-nous ce manifeste.
Alors, ce manifeste, c'est une initiative qui vise à sensibiliser les candidats à ce sujet du bien manger à l'école, qui est un sujet qui touche tout le monde. Moi, depuis que je suis engagée sur les cantines, ça fait 8 ans, il n'y a pas une personne avec laquelle j'en ai parlé qui est restée indifférente au sujet. Je pense que vous avez des souvenirs de cantine, vous avez les récits de vos enfants de la cantine, ça ne laisse personne indifférent. On a une étude qui est parue cette semaine qui disait que 85% des Français estiment que la restauration scolaire devrait être une priorité municipale. C'est une étude Ipsos pour le SNRC. 78% des Français interrogés et 83% des parents pensent que c'est un sujet prioritaire ou important pour les municipales.
Il y a donc une vraie attente.
Absolument.
Dans
et
le
pour
débat
autant.
Public.
Pour autant, on a beaucoup de candidats qui ne parlent pas d'alimentation dans leur programme et encore moins de restauration scolaire. Donc nous, avec l'Association de l'alimentation durable et nos alliés qui sont l'école comestible, au goût du jour, les insatiables et du vote à l'assiette, on a écrit un manifeste qui est une invitation pour les candidats aux municipales à s'emparer de ce sujet. On leur donne 10 points sur lesquels s'appuyer pour construire leur feuille de route pour enclencher cette transition dans les cantines, sachant qu'il y a des territoires qui sont déjà bien avancés, qui cochent quasiment toutes les cases, et là on leur demande juste d'affirmer leur engagement continu sur ce sujet, et puis il y en a d'autres qui sont moins avancés et qui auraient besoin d'être guidés, et bien on leur apporte cette aide à travers ce manifeste, et on les invite à le consulter sur le site de l'Association de l'alimentation durable, et à le signer en ligne.
Vous m'avez dit, en préparant cette émission, que c'était vraiment pas facile de sensibiliser les candidats et les candidates, quels que soient les bords politiques d'ailleurs, et puis surtout, soyons très prudents, on est en période de réserve, entre guillemets, on se gardera bien de citer des noms de candidats et de candidates, évidemment, c'est pas du tout le sujet de cette émission, mais il y a quoi ? Il y a une appréhension des candidats et des candidates à s'emparer de ce sujet, le chantier est trop complexe, qu'est-ce qui explique cette frilosité ?
Alors, y en a qui, effectivement, pensent que c'est trop compliqué, ils pensent tout de suite qu'on va vouloir tout faire changer et aller vers des engagements très compliqués à tenir. Mm-hmm. Or, il y a tout plein de communes qui sont engagées depuis des années, qui ont montré que c'était possible de voir loin, que c'était possible d'aller très loin, mais aussi d'avancer par petits pas. Nous, on leur propose déjà de s'appuyer sur toutes les parties prenantes, de poser la base en ayant une approche qui soit concertée pour comprendre quelles sont les attentes, quels sont les enjeux sur le territoire, parce qu'il n'y a pas une solution qui correspond à tous les territoires. Ça va dépendre du terroir, des producteurs à disposition, du mode de gestion, des possibilités au niveau humain, des attentes des familles en fonction de leur cadre de vie, de leur culture, etc. Donc il va falloir s'adapter. Donc la base, c'est de partir sur un projet co-construit et puis ensuite, à minima, de respecter la loi. C'est pas le cas partout en matière d'approvisionnement locaux et d'approvisionnement de qualité et durable. Il y en a qui ont montré que c'était possible. Regardez ce que font les autres, comment ils y sont arrivés, faire du partage de bonnes pratiques. Et puis ensuite, viser plus loin et interroger les enfants, parce que moi, ce que je vois aussi, et ce qui est un vrai frein, c'est que certains élus se réfugient derrière des chiffres. Donc on va dire, nous on a tant de pourcents de bio, on a tant de pourcents de produits sous signe de qualité, donc c'est ok. Mais si on a ces chiffres qui sont formidables, la question qui se pose et qui est un vrai driver de l'insatisfaction des parents, c'est est-ce que les enfants mangent ? Est-ce qu'ils ont compris ce qu'on leur a mis dans leur assiette ? Et par extension, si on met un pourcentage élevé de bio, mais qu'on le réchauffe dans des barquettes avec du plastique, finalement, on passe à côté de la mission. Et si ces produits de qualité finissent dans des poubelles parce que soit ils n'ont pas été bien présentés, bien préparés, ça peut arriver. Mais on sait qu'on a plein de chefs géniaux dans les cantines qui font un travail formidable, mais qui parfois n'ont pas le temps de la pédagogie. Les réfectoires sont très souvent trop petits par rapport au nombre d'enfants qui y mangent. Donc ils doivent manger vite. Il y a du bruit, qui est aussi un vrai frein à l'appropriation de son assiette. Donc les chiffres, il faut savoir que les enfants ne mangent pas des cases de tableaux Excel et Galim. Et ça, c'est un vrai sujet. Et ce n'est pas parce qu'on a mis tant de millions d'euros sur la table qu'au final, on répond à la mission de
service. Là, vous avez évoqué la loi Egalim, votée en 2018, qui imposait un certain nombre de règles, notamment dans le cadre de la restauration collective. Précisons que ce qui, sans doute, fait aussi la complexité du sujet, c'est que les modes de gestion sont différents. Toutes les cantines scolaires ne sont pas gérées par les mêmes collectivités territoriales. On le rappelle juste, hein, un mot là-dessus. Les cantines des écoles maternelles et élémentaires,
c'est les mairies. Les collèges, ça va être les départements, et les lycées, c'est les régions. Donc on a un petit millefeuille qui parfois se retrouve dans le même pâté de maison.
Un millefeuille à la française.
Voilà, donc il y a ces responsabilités-là. Et puis on peut avoir soit la cantine qui est gérée par la collectivité, donc on appelle ça en régie, autogestion, soit
ce que vous appelez les cuisines centrales ?
Alors non, ça peut être en cuisine centrale ou ça peut être sur place. C'est là que ça devient compliqué. C'est qu'on peut gérer sa cantine soi-même au niveau de la collectivité ou déléguer à une société privée. Et ça peut être soit cuisiné sur place, comme ce que fait Pierre-Yves dans son collège, soit dans une cuisine centrale qui va, si elle est en liaison chaude, cuisiner le matin et ça va être livré chaud directement le midi à la cantine. Ou alors, ça va être cuisiné plusieurs jours avant, refroidi et livré, et réfrigéré à la cantine. C'est ce qu'on appelle la liaison froide. Et puis, il y a des modèles un petit peu hybrides qui prennent le meilleur des deux mondes.
Et ben voilà, c'est ce qui complexifie la donne. On va rentrer un peu. Vous voulez ajouter quelque chose, Pierre-Yves Romelard ?
C'est juste étonnant que les élus, ils n'aient pas conscience de ça. J'ai des témoignages d'anciens élus dans le sud de la France qui mettaient le paquet à la cantine pour que les enfants soient ravis. Et ils faisaient sa campagne électorale là-dessus. C'est quand même assez fou que les élus, ils n'aient pas conscience de ça. Et puis du levier que c'est, parce que quand même, avoir en gestion une cantine, ça veut dire qu'on peut faire de l'approvisionnement local, soutenir les producteurs, ça veut dire qu'on fait de l'éducation au goût, à la santé, enfin tout ça, c'est tout ce que ça englobe. Et donc c'est assez étonnant que les élus, ils n'aient pas conscience de ça.
Et mais oui, c'est une parole très juste, ils pourraient en faire un vrai argument de campagne, surtout en voyant les sondages qui montrent que les parents, les familles sont particulièrement sensibles à ce sujet. On va continuer à en parler, on va évoquer d'ailleurs dans un instant avec vous, Marie-Pierre Membrive, et puis Anthony, on voudra son avis sur des petites marottes que vous avez, des cas particuliers, des cas concrets de préparation culinaire qui peuvent poser question ou problème dans l'univers des cantines scolaires. Mais pour l'instant, la parole est à François Simon qui retombe en enfance avec, on va le voir, plus ou moins de délices.
On va déguster sur France Inter.
Dites-moi, cher François, mon petit doigt m'a dit que vous seriez allé manger quand même dans une cantine scolaire cette semaine.
Tiens, c'est plutôt rare, cher François-Régis, de vous découvrir quelque peu enfantin dans votre quête de l'information.
Ça m'a étonné, j'avoue.
Mais effectivement, après moult autorisations, car les cantines sont tout de même des lieux sanctuarisés, je me suis rendu cette semaine dans une cantine, celle du 12e arrondissement à Paris-Bercy, et sincèrement, ça m'a fait un choc.
Attendez, François, vous êtes encore sensible au choc. Moi, je pensais que vous aviez troqué votre mâchoire contre un pare-choc.
Vous savez, je les collectionne, les chocs. Et si j'ai le cœur d'artichaut, j'ai l'estomac de pierre.
Allez, alors, qu'est-ce que vous avez vu dans cette cantine parisienne?
Bon, c'est vrai, il y a les plateaux en inox, style porte-avions ou Fleury-Mérogis. C'est pas franchement sexy. Mais si cela présente une énorme économie de manutention, une hygiène irréprochable et une manipulation efficace, dedans, il y a quoi? En fait, ce jour-là, il y avait un délicieux velouté de lentilles corail, une lamentable escalope de dinde tristounette à souhait, mais joliment twistée par une sauce tandoori plutôt allègre. Alors qu'à côté, ce qui s'annonçait comme un pinsum, des choux-fleurs persillés, s'avéra être franchement réussi. Cuit comme il faut, pas du tout avachi, mais avec ses dentales, ses saveurs, une belle prononciation.
Ah, je m'en remets pas, moi, de
François, la critique gastronomique
François Simon qui débarque dans une cantine scolaire à Paris. Et le dessert, vous en avez pris un ou pas, François?
Ouais, bon, ok, je vois venir, là. Une génuflexion prévisible à l'agroalimentaire avec une crème vanille, certes labellisée à souhait, bio et tout ça, mais lestée d'épaississants, d'amidon, de tapioca, de concentré de carottes, et de pommes et d'extrait d'algues. Bon. C'est un peu comme la télé allumée, sans même le son, une sorte de fleuve mou qu'on mange avec un regard de bovin. Pourtant, c'est tout de même un travail de Romain qu'abattent chaque jour les personnels des cantines avec une vraie ferveur. À Paris, ils arrivent dans des budgets qu'on imagine sacrément serrés à faire des prouesses. En fait, les cantines, c'est pas simplement balancer une louche de patates, c'est impressionnant comme organisation, avec des valeurs militantes sur des denrées bio et durables, produites souvent à moins de 250 km de Paris, par exemple pour le 12e, pour les 1300 cantines municipales de la capitale.
C'est marrant François, mais pour le peu que je vous connaisse, je vous sens quand même un peu au bord du paradoxe.
Ouais, c'est vrai. En fait, comment dire, en voyant ces ribambelles de futurs adultes, je me disais que je sentais une certaine solidarité. Certes, c'est admirable de pouvoir, avec l'âge, faire la différence entre une vache qui rit et du Bria Savarin, mais ce que j'en vis chez eux, c'est ce que nous perdons avec l'âge et le savoir. Par exemple, devant une pomme, comme devant un lièvre à la royale, il faudrait tout oublier de nos connaissances. On devrait oser écouter, se taire, accueillir le doute. Entrer alors dans une sorte de virginité de la pensée, un espace minéral, dénudé, ne stockant plus vraiment, acceptant avec humilité le flux des impressions. En fait, personnellement, c'est ce que j'essaye de faire depuis des années. Ne plus penser, ne pas trop savoir, et précisément, c'est plutôt agréable, cet endroit ouaté. Il est même bienveillant. Il est enfin presque voluptueux de dire « bah, je sais pas ». Ne plus être maître de la situation, retrouver précisément une enfance à rebours, presque régresser, pleurer, avoir faim, sourire, rire, s'informer même avec son petit doigt. En fait, c'est ce que j'essaye de faire en voyant ces classes maternelles, retrouver le sens de l'émerveillement.
François Simon, tout est là. En enfant. Et cette expérience dans cette cantine parisienne, cher François, vous la racontez dans une vidéo sur votre compte Instagram que j'ai découverte ce matin, qui se conclut par votre fameuse formule « Je vous imite si bien, on y va ». Y retournerai-je? Je dévoile pas la réponse.
Non. La suite.
À nos auditeurs d'aller voir votre savoureuse vidéo. Il a raison, François Simon. Cette capacité de s'émerveiller, cette curiosité, elle fait partie justement de l'enfance. Vers quel âge, à peu près? Souvent, les néophobies, c'est conditionné par l'environnement culturel, en fait, non?
Oui, et puis après, on en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a déjà un socle de connaissances familiales par rapport à ça. Donc, plus on va retarder, plus l'enfant va se méfier des aliments et notamment des légumes, parce que voilà, c'est un peu le parent pauvre, on va dire, hein, de l'assiette des enfants. Donc c'est difficile de donner un âge en soi, oui. Mais plus on aura une présentation des aliments tôt. Et on a notamment une étude intéressante à ce sujet qui montre que même si l'enfant ne veut pas manger un aliment, ne veut pas le goûter, il ne s'agit absolument pas de le forcer, mais simplement d'expliquer en quoi il peut être intéressant, de voir les parents manger cet aliment et puis d'y être exposé régulièrement. C'est un très bon moyen pour qu'à l'âge adulte, justement, ils reviennent à ces aliments-là. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ne le veulent pas et puis ils ne le connaissent pas que c'est pas, c'est inutile pour nous d'aller expliquer en fait en quoi ils sont intéressants.
Il y a aussi quelque chose qui revient souvent, c'est des aliments dont on va être dégoûté par la cantine. Moi, je sais que par exemple, la langue de bœuf, il y en avait à la cantine quand j'étais enfant, j'ai jamais pu en manger une fois adulte. Et ça, on l'entend
c'est vrai
souvent quand même.
La liste est longue, y compris ces pauvres épinards qui font certainement partie de mes légumes préférés. Bah, quand ils se transforment en bouillasse avec un petit peu de crème, c'est vrai qu'ensuite, l'avenir de l'épinard dans la tête de l'enfant qui va grandir est un peu compromis.
Alors qu'une salade d'épinards
frais
est très 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 bon, et effectivement c'est...
François ? Ce que j'aime bien aussi dans ce genre de configuration, c'est que souvent on se construit contre. Oui. C'est-à-dire on dit non pour s'affirmer. Oui. Et c'est ça où la nourriture aussi est un bon vecteur, parce que effectivement il y a une époque de rejet, on se construit ainsi, dans un monde qui est totalement déconstruit, et ensuite on trouve, quelle qu'elle soit d'ailleurs, sa voie.
Dans un instant, des cas particuliers, je le disais, que va nous présenter Marie-Pierre Membrive. Des initiatives aussi qui marchent. On va aller on va suivre Zazie, non pas dans le métro, avec Raymond Queneau, mais plutôt
train.
En Normandie, c'est ça. Vous allez dans un village de l'Eure qui a pris le taureau par les cornes, et vous allez voir, c'est passionnant. I change for you de Mitski. Quoi de neuf au menu de nos cantines scolaires? Le débat est lancé à l'approche des élections municipales.
On va déguster sur France Inter.
Zazie Tavitian, vous êtes allée sur le terrain. Vous vous intéressez au cas d'un village normand qui a pris la question de sa cantine scolaire à bras le corps. Hein.
Oui, je suis allée manger à la cantine. Vous connaissez ma passion cantine, François-Régis. J'ai donc sauté sur l'occasion. Je me suis rendue à l'école publique élémentaire d'Alizé, dans l'Eure, un village de 1600 habitants qui a remunicipalisé sa cantine il y a 8 ans. Je suis arrivée le matin. Vous le savez aussi, on ne rigole pas avec l'hygiène dans les cantines scolaires. J'ai donc revêtu mes surchaussures, ma toque, ma blouse.
Ah, j'aurais aimé vous voir.
J'étais magnifique. Il y a des photos sur le site de l'émission.
Sur les réseaux sociaux de Zélie, ouais, sur l'émission.
Et j'ai rejoint le cuisinier Sébastien Dubosc dans la grande cuisine. Il était 11h, il venait de terminer les préparations des 200 repas du jour qu'il prépare pour les maternelles et l'élémentaire. Je lui ai d'abord demandé s'il se rappelait de ses souvenirs de cantine.
L'image que j'avais de mes souvenirs, c'est beaucoup de choses industrielles. Ce qui m'a plu ici, c'est réellement on cuisine, c'est pas des plats qui arrivent tout préparés. Et là, je sais pas si vous voyez, là dans la cuisine, on a pas mal d'équipements qui est quand même assez récent.
Ouais, donc c'est meilleur que ce que vous cuisinez aujourd'hui que dans vos souvenirs d'enfance en tout cas.
Oui, tout à fait. Ouais, oui.
Et comment vous êtes arrivé ici ?
À 40 ans, l'usine où je travaillais avant, l'usine qui est juste en face, c'était l'usine de papier. Maintenant, c'est une cartonnerie qui a été rachetée par le groupe VPK. Mon poste a disparu. J'ai choisi une reconversion. C'était mon souhait déjà en sortie du collège, en troisième. Je voulais faire la restauration, mais pour des raisons familiales, je n'ai pas pu. C'est ce qui me passionnait déjà à l'époque et c'est ce qui me passionne toujours maintenant. Et donc du coup, dès 7h30, on est en tenue de cuisine et puis on cuisine, on prépare les plats. On est une restauration scolaire qu'on fait du 100% bio, tout est fait maison, quoi. On essaye d'innover. Là, il n'y a pas longtemps, on a fait des ramen. On travaille avec le boulanger de la commune qui nous fait que des produits bio. Donc voilà, c'est super pour les enfants, quoi.
Et qu'est-ce qu'on va manger ce midi alors ?
En entrée, une salade de pâtes au curcuma, thon, cornichon. Et en plat, nous allons manger une poêlée paysanne et du bourguignon, enfin de l'émincé de bourguignon qui a été mijoté pendant 16 heures avec une sauce tomate, oignon, paprika.
Pas une sauce au vin ?
Pas une sauce au vin, non. Non.
Et pour le dessert, qu'est-ce qu'il y a ?
Alors pour le dessert, il y a un gâteau yaourt avec des pommes fondantes caramélisées. Donc les enfants vont se régaler, je pense. Ouais. Dans l'ensemble, ils sont très contents. Pour ceux qui permutent pour aller au collège l'année qui suit, souvent quand on les revoit, nous disent « Ah, c'était meilleur à la cantine ». C'est une petite satisfaction personnelle, quoi, mais ça fait plaisir.
Parce que ce qui est intéressant ici, c'est que les cuisiniers ont la réaction des enfants en direct. Ils organisent aussi d'ailleurs des ateliers pour leur apprendre à se familiariser avec les légumes. Dans une semaine, Sébastien leur montrera par exemple comment cuisiner les carottes râpées de A à Z. Ce lien entre les enfants et le personnel de cantine est très important. C'est ce que racontent très bien les sociologues et anthropologues Geneviève Zoya et Laurent Vizier dans leur essai « Les cuisines de la nation ». Notamment le fait que l'industrialisation des cuisines scolaires a enlevé à la cantine son aspect éducatif et a dépossédé les personnes qui y travaillent de leur savoir-faire précieux. Ce que m'a confirmé ce midi-là Patrick Robert, cet agent municipal, il s'est formé pour devenir référent alimentation et pour réfléchir autour de toutes ces questions, que ce soit le bio, le gaspillage alimentaire, l'accessibilité. Ici, les premiers repas coûtent 0 euros et vont jusqu'à 3,90 euros. Le village il vient aussi de recruter un maraîcher municipal installé sur un terrain d'Alizé. Donc ce maraîcher il fournira les cantines, mais aussi l'épicerie solidaire. Il donnera des cours de jardinage aux habitants. Car en partant de la cantine, les élus du village se sont rendus compte de toutes les ficelles qu'il y avait à tirer pour faire de l'alimentation un enjeu de vivre ensemble, de santé publique et de souveraineté alimentaire. Alors là, vous allez l'entendre, il est midi. Attention, le niveau sonore augmente. Ce jour-là, à l'école Jean Ferrat, il y avait aussi les aînés du village. Les enfants ont déboulé et Patrick Robert était à son poste pour discuter avec eux et les encourager à goûter.
T'as pas pris d'entrée, par contre, Lidéric ? C'est des pâtes avec du thon. T'en prends un peu ? Bah, vas-y. Pas d'entrée, pas de dessert. C'est quoi, ça ? T'es pas allergique ? C'est ça que tu veux pas goûter ?
Le jus pour goûter.
Allez, go.
Là, tu es en train de faire des petits morceaux de gâteaux parce que les enfants, ils aiment pas les gâteaux au yaourt.
C'est pas qu'ils aiment pas, c'est qu'ils disent qu'ils aiment pas, mais qu'ils ont pas goûté. Donc, ça leur permet de goûter et de revenir en chercher.
Est-ce que c'est bon, la cantine, ici ?
Oui.
Et je t'ai entendu dire, il y a des cornichons, tu avais l'air inquiet.
Ouais. Ouais, j'aime pas les cornichons.
Et du coup, tu vas faire quoi ?
Je vais les mettre de côté.
Moi, j'aime tout, c'est très bon à la cantine.
C'est bio.
On est sûr qu'on mange sain et ça va pas des usines, quoi.
Et toi, c'est quoi ton plat préféré à la cantine ?
C'est les pâtes carbonara.
Est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes vraiment pas manger ?
Bah, la betterave, j'aime pas trop ça.
Et vous n'êtes pas des enfants, là ? Et vous venez déjeuner ici de temps en temps ?
Oui, tous les 15 jours à peu près.
Il y a une bonne ambiance et on est toujours bien reçus.
Et vous avez des souvenirs de cantine quand vous étiez petit ?
Ah oui.
Oui, mais ce n'était pas du tout la même chose. Hein.
On avait droit à la soupe tous les midis.
Il n'y a pas photo.
La viande, ça vous a plu ?
Oh là là, un délice, un délice.
Et qu'est-ce que vous allez faire après, vous ?
Écoutez, on a après-midi crêpes avec le club Renaissance.
Bah, nous, on va travailler à l'école.
Payer leur retraite ?
Non.
Et... vous avez mangé aussi, vous avez dit ou pas ?
Oui, j'ai bien mangé, je me suis régalée. Et je vous ai même fait des carottes râpées avec la touche secrète du chef. Alors, excusez-moi pour ce râpage de carottes, je n'avais pas la bonne râpe ce matin.
Vous voulez dire donc qu'elles sont finement râpées ?
C'est un peu une crème de carottes.
L'assaisonnement est super.
Voilà, mais c'est l'assaisonnement qu'a trouvé le chef de la cantine d'Alizé, parce qu'il dit que les enfants, ça les fait manger ces carottes. Est-ce que vous trouvez ce qu'il y a dans cette vinaigrette ?
Bah, il y a clairement une petite note moutardée.
Il y a une petite note moutardée.
Mais c'est doux en même temps.
Mais oui, c'est doux. C'est, parce
c'est un peu sucré.
Moi, je sens une note fruitée, non ?
Oui, c'est ça, ouais. Mais il y a une moutarde peut-être qui est un peu, peut-être
un peu
plus sucrée.
Il y a une moutarde, c'est le côté jus d'orange. Il met, de l'orange pressé qui donne aussi la petite touche sucrée qui plaît aux enfants.
Mais écoutez, ça fait vraiment plaisir à voir. Très belle initiative dans ce village de l'Eure qui a entièrement pris le contrôle de sa cantine scolaire. Ça vous parle forcément, Pierre-Yves Romla, parce qu'on se dit que des cuisiniers sur place, et on l'entend très bien dans le reportage de Zazie, c'est finalement une façon d'avoir une relation directe avec l'enfant, de dialoguer, de participer à cette fameuse éducation.
Bien sûr, c'est d'être là. Et puis il faut que les enfants, ils identifient qui leur fait à manger. Si on veut qu'ils aient confiance en ce qu'on leur propose, c'est bien de savoir qui c'est qui leur a fait à manger, comment, etc. Et je veux dire, même le fait d'être au bout de la ligne de self, de dire bonjour, comment ça va, bon week-end, les vacances, etc. Déjà, rien que ça, ça crée un lien avec les enfants et on les met en confiance. Donc, effectivement, bien sûr que le cuisinier est très important. L'éducation, après, on peut faire de l'éducation, on peut aller en salle, on l'a entendu là encore. Les cuisiniers qui sont dans les cantines, qui sont là en direct avec les enfants, ils ont tout le loisir d'avoir cette approche avec les enfants et de partager tout ça. Alors même s'ils ne goûtent pas, on peut les rassurer, on peut leur évoquer les ingrédients, leur montrer qu'il y a d'autres choses, et pourquoi est-ce que tu manges que ça et t'aimes pas, et qu'est-ce qu'on pourrait faire, leur demander de faire des propositions. Et tous ces échanges qu'on crée avec eux, on les met en confiance, et je vois qu'à la fin, il y en a qui partent après la troisième, et quelques clins d'œil, on voit qu'ils ont pris un dessert et qu'ils vont goûter cette fois-ci, et comprennent de suite ce qu'on attend d'eux, et c'est génial.
Marie-Pierre Membrive, est-ce que justement des cuisiniers sur place, c'est le cas de l'exemple cité par Zazita Vitian, c'est le cas de vous, Pierre-Yves, des cuisiniers qui cuisinent à l'école, donc on n'est pas dans la question de la liaison froide, d'une cantine centrale, avec des plats qui arrivent, potentiellement avec des emballages plastiques, etc., même si le plastique est très régulé, mais on se rend compte que c'est pas toujours très appliqué. Est-ce que finalement, ces cuisiniers sur place, c'est pas une façon de cuisiner au plus près, au plus juste, en tenant compte du nombre exact de repas à servir, pour éviter quand même ce gaspillage ?
Alors c'est sûr que ça facilite les choses, ça permet de s'adapter au nombre de convives, à leur goût, en ajustant les assaisonnements, etc. Mais je tiens quand même à dire que c'est pas parce qu'on est en cuisine centrale que forcément ce sera pas bon et déconnecté des envies et des goûts des enfants. Il y a des collectivités qui l'ont très bien compris, qui créent du lien entre les cuisiniers de la cuisine centrale en faisant venir les enfants pour des visites, qui vont être les ambassadeurs ensuite au niveau de l'école. Et j'ai même entendu un exemple d'une cuisine centrale en liaison chaude où les cuisiniers qui cuisinent très tôt le matin vont ensuite dans les écoles servir ce qu'ils ont préparé. Et quand ce n'est pas possible, eh bien, il y a des communes qui sont très engagées pour que le personnel de service soit sensibilisé, puisse être ambassadeur de ce qui a été fait au niveau de la cuisine centrale. Et puis, comme je le disais, il y a des modèles hybrides où on va faire au niveau de la cuisine centrale ce qui ne souffre pas trop au niveau du transport et de la conservation. Et puis, on va avoir sur place un vrai four, une friteuse parfois, un grill. Et il y a des cantines dans lesquelles on mange des moules frites avec des vraies frites qui sont croustillantes, qui ont été frites sur place juste avant le service, et des moules qui ont été cuites dans un four vapeur et qui sont délicieuses.
Attention, parce qu'Anthony Berthoud va vous dire que les frites, évidemment, c'est de la friture, c'est du gras.
Non, mais de temps en temps, on y a droit.
L'association dont je parlais tout à l'heure, en fait, 25% des enfants qui mangeaient des frites ne savaient pas que ça provenait de la pomme de terre. Donc on en revient.
Ah ouais, ça part de loin.
Zazie ? Moi, j'avais une petite question sur les liaisons chaudes et les liaisons froides. Enfin, ça, c'est encore deux choses différentes, mais moi, ce que j'ai entendu, c'est que les liaisons froides, justement, elles vont mal vivre le fait de réchauffer les aliments ensuite, c'est notamment les frites en liaison froide, c'est pas très bon.
Ah ben, en liaison froide, et là, c'est l'ingénieur agroalimentaire qui parle, avoir du croustillant quand on est resté dans une barquette ou dans un bac inox pendant 2-3 jours et qu'on est réchauffé dans une étuve, c'est pas possible. C'est l'émigration d'eau. Donc c'est pour ça que il y a ces solutions hybrides où on a des vrais fours, on va pouvoir gratiner, faire du croustillant sur place, même si on a préparé un taboulé au niveau de la cuisine centrale.
Question prix, en un mot, parce qu'on a vu que dans le cadre de votre cantine normande Zazie, on était entre 0 et 3,90 euros le repas, ce qui signifie que j'imagine qu'il y a des paliers en fonction peut-être des conditions sociales des élèves accueillis. Un rapport de l'ADEME de 2023 montre que le coût complet moyen d'un repas de cantine scolaire en moyenne en France est de 9 euros, dont 2,27 euros de denrées, plus après évidemment les coûts de main d'œuvre et de préparation. Chez vous, c'est combien, Pierre-Yves Romelard ?
Le prix des denrées ?
Non, pardon, plutôt le prix
du repas ?
Le prix d'un repas ?
3,80 euros. Et c'est harmonisé dans tout le département récemment.
Waouh, donc ça reste très compétitif.
Bien sûr, moi, quand je vais dans les boulangeries, quand je vais dans les points où on mange à l'extérieur, je ne trouve pas de repas complet à ce prix-là.
Waouh, on évoque avec vous, Marie-Pierre Membrive, quelques cas concrets d'options culinaires qui peuvent poser problème à la cantine. À commencer par, bon, petit sondage autour de la table, le plat préféré de nos élèves, enfin des élèves, dans les établissements scolaires en France, à votre avis ?
Pizza.
Ah,
les
François.
Pâtes,
non.
Les frites.
Alors frites, certainement.
Oui, les frites, c'est la vie. Hein.
Mais il y a une préparation emblématique, il paraît même qu'un certain président de la République en raffole.
Un cordon bleu.
Ah oui.
Et ouais, le cordon bleu. Et Marie-Pierre Membrive veut carrément organiser des états généraux du cordon bleu, racontez-nous.
Oui, absolument, parce qu'on parlait de gaspillage à l'instant. Il faut savoir que les jours où il y a du cordon bleu à la cantine, il finit rarement à la poubelle. Il finit vraiment dans les estomacs de nos enfants. Et certains, d'ailleurs, découvrent le cordon bleu à la cantine. Alors, dans certaines cantines, on a des cuisiniers qui font des cordons bleus maison. C'est le grand luxe, mais dans la plupart, ce n'est pas le cas. Et on comprend qu'on n'ait pas forcément la possibilité de faire des cordons bleus maison à la cantine. On sait que ceux qui les fabriquent sont capables de faire des cordons bleus de grande qualité avec de la volaille française, sans additifs, sans arômes, sans nitrites, etc. Le truc, c'est que quand on est parent, on ne sait pas quelle est la qualité du produit servi dans la cantine de nos enfants. Et du coup, ça pose question. Et moi, je me suis intéressée dans toutes les commissions menus où je suis allée. J'ai demandé des fiches techniques de produits élaborés. Parfois, j'en ai obtenu. J'ai été un petit peu surprise, dans le bon sens ou pas forcément. Et puis, sur ce cordon bleu, j'aimerais beaucoup qu'on puisse lancer cette opération d'états généraux du cordon bleu en mettant autour de la table toutes les parties prenantes pour qu'on se dise, le cordon bleu, soit on n'en met pas à la cantine et c'est OK. Il y a d'ailleurs pas mal de collectivités qui ont décidé de le supprimer.
Parce que c'est trop compliqué, il y a trop de composants et il y a souvent, effectivement, parmi ces composants, on va dire des ingrédients un peu douteux. Hein.
C'est
donc,
ça.
Soit
on le fait bien et on se met tous autour de la table et on se débrouille pour se mettre d'accord pour que le cordon bleu qu'on servira dans les cantines, si on continue à en servir, ce soit un cordon bleu dont on n'ait pas honte et qui soit un produit de qualité.
Ça pose la question, Anthony Berthaud, évidemment, de ces produits ultra transformés qui se sont invités au menu de nos cantines scolaires et dans toute l'alimentation des Français.
Et dans les placards des familles. Donc effectivement, en fait, c'est une sorte de caricature de l'alimentation ultra transformée. Et comme vous le précisiez très bien, on a des additifs, on a des composés qui sont aujourd'hui reconnus comme étant délétères, ce qui n'a rien à voir avec un cordon bleu maison. Et c'est là où on peut aussi avoir du plaisir avec des ingrédients de qualité, mais on en revient encore et toujours à la cuisine, en fait, plus qu'aller vers ces aliments ultra transformés.
Il nous reste une poignée de minutes pour évoquer deux desserts. Marie-Pierre Membrive, Pierre-Yves Romelard, deux jolis desserts, deux cantines, preuve qu'il y a des solutions. On commence avec votre dessert. À vos cuillères, n'en dites pas trop. Vous aimez ou pas ?
Ouais, c'est très bon.
Je vous laisse goûter avant de vous dire ce que c'est, mais c'est vraiment pas compliqué. Là, on est encore sur une pratique très simple d'un dessert hyper abordable qui se met en œuvre très facilement.
Il y a des amandes.
Inspiré d'un dessert libanais, j'en dis un peu plus au fur et à mesure.
C'est bien, c'est bon.
Et des échanges qu'on a fait avec Pascal Barbeau et l'équipe de l'Astrance pour essayer de trouver des petites idées comme ça. Et
Pascal Barbeau, vous évoquez un super chef parisien
génial,
qui officie à deux pas de la maison de la radio.
Et qui prend du temps pour échanger avec moi et pour trouver de nouvelles idées, de nouvelles recettes. Et encore une fois, donc du coup, une méthode ou une technique, un mode opératoire. Qu'on diversifie, donc on part sur cette base de lait féculé, et puis après, on invente tout ce qu'on veut, donc on a le moule arabi au Liban, et puis là on est sur une crème d'agrumes, j'ai mis quelques amandes grillées parce que c'est plus simple et moins onéreux que la pistache, et c'est de chez nous. Après on peut faire la même chose avec du caramel, du chocolat, enfin voilà, on multiplie la mode opératoire, enfin on fait 10 recettes, 15 recettes différentes avec ça.
En un mot, c'est bien ou c'est pas bien ?
Oui, très bien, et puis vraiment les oléagineux, c'est une mine d'or nutritionnelle pour les enfants. Donc,
et ben voilà, magnésium hein, notamment, des fibres, plein de bons minéraux et des fibres.
La vitamine E, bon, y a plein
et puis enfin, pardon, et un lait de la ferme, très, très court, très vite, un super lait de la ferme en bio, c'est génial aussi.
Génial, une poignée de minutes parce que vous avez apporté un énorme appareil, mais qui peut être aussi réduit à la maison, voilà. Ça s'appelle un...
Un coupe-fruit.
Et qu'est-ce que ça change le coupe-fruit ?
Eh ben, il y a quelqu'un un jour qui a dit manger des pommes. Moi, j'ai envie de dire servez des pommes coupées dans les cantines, toutes les cantines de France, parce que les enseignes de restauration rapide l'ont bien compris il y a une vingtaine d'années. Quand on sert les fruits coupés aux enfants, eh bien, ils les mangent. Ils aiment manger avec leurs mains. Quand ils sont petits, ben, les dents sont trop petites pour couper la pomme. Vous avez déjà vu un couteau de cantine ? Essayez de couper une pomme
mais
ou une orange avec.
Le coupe-fruit est vraiment un game changer. Hein.
Complètement. Il y a des communes qui ont équipé tous leurs animateurs de coupe-fruits et quand ils ont le temps, ils peuvent le faire à la main avec celui que vous pouvez avoir à la maison. Moi, depuis que j'en ai acheté un, je peux vous dire qu'on mange beaucoup plus de fruits. Et
alors,
sur les pommes, les poires, les oranges, eh ben, il y a des cantines qui se sont équipées de cet engin qui permet d'étrogner la pomme ou la poire et de faire des quartiers. Moi, il m'a fallu 7 ans pour convaincre mairie et son prestataire d'acheter ce truc. J'ai dû faire la démo en mode téléachat et maintenant, les enfants dans les cantines de ma commune mangent davantage de fruits et on en gaspille moins.
Mais Marie-Pierre Mambry, il faut la mettre sur un marché, c'est nickel. Hein.
Alors là, je tiens à dire que je ne suis pas du tout rémunérée par l'entreprise qui fait cet équipement, qui équipe.
Il paraît que les fruits coupés changent tout et ça évite aussi le gaspillage, c'est magnifique.
Ouais.
On est obligé de conclure sur cette démonstration très concluante et on va se régaler avec des pommes et des poires bio que vous nous avez apporté. Un immense merci Marie-Pierre Mambrive. Mission cantine scolaire à lire chez Michelon. Merci beaucoup Pierre-Yves Romard.
Avec grand plaisir, avec grand
plaisir.
C'était
un vrai bonheur de vous recevoir. La semaine prochaine, plein feu sur un légume bon, délicieux, pas cher. Et pourtant, les Français le boudent, le poireau. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.